Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 30 août 2016. Au sommaire ce soir...
Les Gabonais retiennent leur souffle, les résultats de la présidentielle sont attendus ce soir et certains redoutent des violences.
Moi, je ne pourrais pas préjuger d'abord des résultats qui seront annoncés, encore moins de la réaction des Gabonais par rapport à ces résultats.
Chris Fomugno, un observateur du scrutin.
Attentat suicide en Somalie, au moins une vingtaine de morts dans un hôtel de Mogadiscio. Al-Shabaab revendique.
Le Burkina Faso en magazine, des tonnes de poulets avariés saisies à Ouagadougou.
Vers une cessation des hostilités entre Turcs et Kurdes dans le nord de la Syrie.
Présidentielle américaine, les autorités s'inquiètent des cyberattaques contre les bases de données électorales.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Le point chaud de l'actualité africaine ce soir, c'est le Gabon. La proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle devrait intervenir dans quelques heures. Depuis dimanche, deux principaux rivaux, Ali Bongo et Jinping, ont crié victoire. Comment se présente la situation avant l'annonce de la CENAP et du ministère gabonais de l'Intérieur? Nous retrouvons en direct à Libreville notre envoyé spécial Idriss Fall.
Oui, Libreville, actuellement, toutes les rues sont désertes, les magasins ont fermé et la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, doit commencer sa séance plénière dans moins d'une demi-heure à 20h de Libreville et les discussions vont durer quand même quelques heures. C'est à l'issue de ces discussions que le ministre de l'Intérieur devrait annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Donc pour le moment, la ville est très très tendue. Donc le candidat de l'opposition, le principal candidat de l'opposition, Jinping, a déjà proclamé deux fois qu'il est le vainqueur et au moment où nous nous parlons, il est en train de tenir une troisième conférence de presse et je ne crois pas que ce soit pour revenir sur ses propos. Et le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Claude Alain Bintze, vient juste de terminer lui aussi une conférence de presse où il accuse aussi bien Jinping de manipulation, d'association avec des avocats français, notamment l'avocat qui défend la sœur du président Bongo qui avait porté plainte contre son frère à Paris. Il accuse notamment Mamadi Diané qui est actuellement conseiller du président Alassane Ouattara l'Ivoirien d'avoir cherché à corrompre des membres de la CENAP pour les demander de démissionner. Et donc c'est dans cette atmosphère électrique que l'on attend les résultats ce soir.
Idriss Fall, nous avons beaucoup parlé de Jinping et d'Ali Bongo Ondimba, mais que disent les autres candidats dans la course?
Les autres candidats, il y a une chose quand même extraordinaire hier. Jinping a donné sa deuxième conférence de presse pour dire qu'il était le vainqueur et rectifier qu'il ne s'est pas autoproclamé président. Immédiatement, Casimir Oyemba et le Moussouba Ndama, l'ancien président du Parlement, ont tenu des conférences séparées pour faire une sorte de bémol, dire que oui, nous sommes vainqueurs, mais nous n'appelons pas les populations dans la rue. Donc, c'est ça, mais les autres candidats, les huit autres, on ne les a vraiment pas entendus parler depuis samedi, pour dire l'essentiel.
Merci Idriss Fall. Toujours dans l'actualité africaine, en Somalie.
Oui, Al-Shabaab a encore frappé. Un attentat suicide revendiqué par l'organisation djihadiste a fait au moins 22 morts et près de 30 blessés dans un hôtel de Mogadiscio, la capitale. L'établissement très fréquenté situé à une proximité du palais présidentiel. Eric Marinirakiza.
Le véhicule piégé a d'abord forcé un premier checkpoint à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Les forces de sécurité ont immédiatement riposté. L'explosion s'en est suivie, provoquant un énorme nuage de fumée et des flammes qui ont envahi le ciel de la capitale somalienne. Selon l'AFP, une partie de l'hôtel s'est effondrée et d'autres bâtiments situés à proximité ont été endommagés. Les islamistes Shabaab, affiliés à Al-Qaïda, ont aussitôt revendiqué l'attentat, le troisième en 18 mois contre le même hôtel. Celui-ci est situé non loin de l'enceinte ultra-sécurisée de la Villa Somalia, complexe fortifié qui abrite la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre. D'ici quelques semaines, le pays doit organiser des élections au suffrage indirect, dont la présidentielle le 30 octobre, mais les attentats qui se multiplient représentent une menace réelle sur ce processus.
Nouveau sabotage d'oléoduc dans le sud du Nigeria. Un groupe armé revendique l'attaque contre une installation de la compagnie pétrolière du Nigeria. Le Niger Delta Greenland Justice Mandate dit avoir agi en représailles à l'opération lancée par l'armée pour mettre fin aux violences visant les intérêts pétroliers du Nigeria.
L'ONU tire la sonnette d'alarme au sujet du Sahara occidental. Le Maroc et le Front Polisario ont violé l'accord de cessez-le-feu de 91 en déployant des éléments armés dans une zone proche de la Mauritanie. Selon un document confidentiel transmis pour information au Conseil de sécurité, le Maroc a mené du 16 au 25 août une opération présentée comme anti-contrebande dans la région de Guerguerat. Au-delà du mur de défense, une barrière de sable bâtie sur près de 2500 km. Opération lancée sans avertir, la MINURSO précise le document.
Lutte acharnée pour le contrôle de Sirte en Libye. Les forces du gouvernement d'Union nationale affirment avancer vers les derniers retranchements des combattants du groupe État islamique. Les djihadistes seraient désormais acculés dans un seul quartier de leur ex-bastion de Sirte.
Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, bientôt à Paris, Fayez al-Sarraj, est invité par le président français. La solution au chaos en Libye, c'est le rassemblement des Libyens autour d'un gouvernement d'Union nationale, a déclaré François Hollande.
Sachez aussi que la Libye a expédié vers l'Allemagne ses dernières armes chimiques sous la supervision de l'ONU. Un navire danois les transportant a quitté le port de Misrata. Les autorités entendent ainsi s'assurer que ces armes ne tombent pas entre les mains de groupes extrémistes actifs dans ce pays, rongé par l'instabilité et la violence.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, accord pour l'arrêt des hostilités entre les forces turques et les milices kurdes, deux alliés de Washington dans le combat contre le groupe État islamique, mais opposés sur le terrain. Les deux camps se sont entendus pour qu'il n'y ait pas d'affrontement pendant les deux prochains jours, alors qu'ils discutent. Les précisions avec Eddy Sango.
Le colonel John Thomas, porte-parole du CENTCOM, les commandements militaires américains au Moyen-Orient, affirme avoir reçu l'assurance que toutes les parties impliquées vont arrêter de se tirer dessus et se concentrer sur la menace du groupe État islamique. Le colonel Thomas dit espérer que l'accord de principe pour deux jours sans affrontement pourra se consolider par la suite. Washington cherche à éviter un embrasement des combats entre les forces turques et les milices kurdes syriennes depuis le lancement la semaine dernière d'une opération militaire turque dans le nord de la Syrie. Le président Barack Obama doit rencontrer dimanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la situation en Syrie en marge d'un sommet du G20 en Chine. L'opération bouclier de l'Euphrate, lancée par la Syrie mercredi, visait à la fois les combattants kurdes et les djihadistes du groupe État islamique. Ankara considère les milices kurdes YPG, unité de protection du peuple kurde, comme une organisation terroriste. Il veut éviter que les Kurdes syriens ne forment une frontière continue le long de sa frontière avec la Syrie.
La purge post-coup d'État continue en Turquie. Ce mardi, le bureau du procureur d'Istanbul a émis des mandats d'arrêt contre 35 personnes accusées de liens avec les unités putschistes. Parmi ces personnes figurent 9 journalistes, dont le rédacteur en chef du quotidien Hurriyet. Ces journalistes, disent les autorités, seraient de connivence avec l'ex-imam Fethullah Gulen, accusé d'avoir orchestré le coup. Gulen, qui vit en exil aux États-Unis, a démenti toute implication dans les événements du 15 juillet.
Un haut gradé de l'armée américaine prédit la reconquête de Mossoul dans le nord de l'Irak par les troupes gouvernementales avant la fin de l'année. Le dernier grand bastion du groupe État islamique peut être repris aux djihadistes dans les prochains mois, a estimé ce mardi le général Joe Votel, le chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient.
Les opérations de sauvetage se poursuivaient ce mardi au large de la Libye. Les gardes-côtes italiens ont secouru lundi au moins 6 500 migrants Plus de 1100 personnes ont été secourues dimanche. Ces opérations sont menées par des navires des gardes-côtes et de la marine italienne, de l'opération européenne anti-passeurs Sophia, de l'agence européenne Frontex ou d'organisations humanitaires.
Après 50 années d'un conflit, on fait au moins 260 000 morts, 45 000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC, Force armée révolutionnaire de Colombie, vont signer en septembre un accord de paix. La cérémonie pourrait se tenir à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, indique-t-on à Bogota. L'accord intervenu à Cuba suite à 4 ans de négociations sera soumis à un référendum le 2 octobre. Une décision confirmée ce mardi par le président Juan Manuel Santos. Le Sénat colombien a approuvé le document hier par 71 voix pour et 21 contre.
Le ministre français de l'économie Emmanuel Macron a démissionné aujourd'hui, nouveau coup dur pour François Hollande qui va peut-être devoir composer avec un nouveau rival dans la course à la présidentielle de 2017. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
La Côte d'Ivoire a besoin de 3 000 milliards de francs CFA pour financer son secteur privé. C'est ce qu'a annoncé hier lundi Souleymane Diarra Souba, président de la commission finance du secteur privé de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette annonce intervient alors même que l'agence de notation financière Moody's a conservé la note BA3 qu'elle avait attribuée en novembre 2015 à la Côte d'Ivoire, ce qui signifie que la perspective est stable. Le Burkina Faso envisage d'émettre un eurobond pour financer son plan de développement 2016-2020 et accélérer ainsi la croissance de son économie. Près de 9 milliards de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre un plan de développement quinquennal. Tati arrive au Maroc. L'ouverture de son premier magasin est prévue vendredi prochain dans la capitale économique du pays. L'enseigne, bien connue en France, prendra donc ses bases au Morocco Mall de Casablanca.
L'actualité sportive ce soir avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Le capitaine de l'équipe de foot d'Angleterre prendra sa retraite en 2018.
Oui, Wayne Rooney de Manchester United, attaquant et capitaine de l'équipe d'Angleterre, annonce qu'il prendra sa retraite internationale après le Mondial 2018 en Russie. Ma décision est prise, la Russie sera mon dernier tournoi. « Je sais que la Russie sera ma dernière occasion de réussir quelque chose avec l'Angleterre », a déclaré Rooney, âgé de 30 ans, lors d'une conférence de presse à Burton, dans le centre de l'Angleterre, où la sélection anglaise prépare son premier match des qualifications pour ce mondial dimanche en Slovaquie.
Alors au Népal, une sanction pas comme les autres. Un couple privé de montagne pendant 10 ans pour avoir menti sur l'ascension du mont Everest.
Oui, un couple de policiers indiens a été interdit d'ascension pendant 10 ans par les autorités népalaises pour avoir falsifié les preuves de son ascension de l'Everest, connu comme étant le sommet du monde. Dinesh et Tarakeshwari Rathod avaient affirmé avoir atteint le sommet de 8848 mètres le 23 mai. Mais le département népalais du tourisme avait dans un premier temps jugé que leur ascension du toit du monde était valide avant d'ouvrir une enquête. L'analyse des photos des deux Indiens montre qu'ils ont trafiqué des images prises par d'autres alpinistes.
C'est pas de leur faute, c'est la faute de Photoshop peut-être. Quel peut être l'intérêt d'un tel mensonge?
Eh bien, de nombreux alpinistes ont fait carrière en tant que conférenciers ou auteurs après leurs exploits sur le toit du monde. Au total, 456 personnes, dont plus de 250 étrangers, ont atteint le sommet de l'Everest au cours de la saison qui vient de s'achever. Près de 2 années marquées par des catastrophes meurtrières.
Bagassi, avec la technologie maintenant, on peut tout faire. Hein?
On peut tout faire, même aller sur la Lune, on peut se photoshopper là-bas.
Voilà quelqu'un qui met son passage à Rio au service d'une cause. Bagassi, ça se passe en Israël où une médaillée de Rio lève 52 000 dollars pour les enfants cancéreux.
Oui, la judokate Yarden Gerbi, médaillée de bronze israélienne à Rio, a mis donc son badge d'identification au jeu. Aux enchères, ce badge s'est adjugé chérubin à 52 200 dollars, soit environ 30 millions de francs CFA, après une semaine seulement d'enchères qui se sont achevées ce lundi. Je ne sais pas si ce genre d'initiative marchera en Afrique, mais en tout cas, on en a besoin.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être à votre compagnie, Chérubin, Gabi Dorsil et Morgane Guériec. Place au dossier du jour, première escale, Libreville.
Au Gabon, en attendant la proclamation des résultats de la présidentielle ce soir, Jean Ping, principal candidat de l'opposition, a déjà clamé deux fois la victoire, alors que le camp d'Ali Bongo se dit certain d'avoir remporté le scrutin. Libreville s'est transformée en ville fantôme, les rues sont désertes, presque tous les magasins ont baissé le rideau par peur de ce qui va se passer ce soir. Sur le déroulement du scrutin du 27 août, Idriss Fall, notre envoyé spécial, a recueilli l'avis de Chris Fomugno, chef de la délégation d'observateurs du NDI, National Democratic Institute, pour la présidentielle au Gabon.
Nous avons pu observer certains aspects très positifs, le fait que les populations soient sorties en masse, les Gabonais sont sortis pour voter, ce qui est une démonstration de leur attachement à la démocratie et au processus électoral. Également, qu'ils ont voté dans le calme et que même dans les bureaux de vote où le processus a démarré avec du retard, les gens sont restés très calmes et très posés et très patients. À la clôture du scrutin, lors du comptage des voix, ça a été fait de façon très ouverte, très transparente, en présence des délégués de l'opposition comme de la mouvance, en présence de ceux des électeurs qui étaient intéressés à suivre le processus de comptage et de dépouillement. Mais en même temps, certains ratés, par exemple le fait que certains bureaux de vote ont démarré avec beaucoup de retard, l'emplacement même de certains bureaux de vote ne facilitait pas la circulation des électeurs, ce qui a contribué à des rangs très longs. Nous avons constaté, par exemple, la loi électorale prévoit qu'il faut, en plus de la carte d'électeur, une pièce d'identité, notamment la carte d'identité ou le passeport, ou dans les zones rurales, les actes de naissance. Ici à Libreville, dans les bureaux de vote que nous avons visités, des consignes avaient été données pour que ceux des Gabonais qui se trouvaient sur la liste électorale, qui avaient leur carte d'électeur, mais qui n'avaient pas encore obtenu la carte nationale d'identité, pouvaient voter avec le récépissé de la carte d'identité. Dans la plupart des bureaux que nous avons visités, ceux-là ont pu voter, mais dans d'autres bureaux, on a trouvé des électeurs qui n'arrivaient pas à voter parce qu'ils n'avaient que le récépissé. Et cela a causé des frustrations qui ont, dans certains bureaux de vote, retardé le processus.
Vous ne craignez pas qu'il y ait des révoltes à la proclamation des résultats ce soir?
Moi, je ne pourrais pas préjuger d'abord des résultats qui seront annoncés, encore moins de la réaction des Gabonais par rapport à ces résultats. Je pense qu'il serait mieux que tout le monde attende la proclamation des résultats, que les partis politiques, comme ils ont pu obtenir dans les différents bureaux de vote un exemplaire pour chacun du procès-verbal du bureau de vote, qu'ils prennent le temps de faire leur propre compilation afin de pouvoir comparer les résultats qui seront annoncés ce soir par rapport aux informations qu'ils ont pu recueillir et par rapport à leurs propres résultats. Et qu'ensuite, le peuple gabonais, qui jusqu'à présent a démontré une certaine maturité et un certain retenue, puisse vraiment se comporter avec beaucoup de dignité, comme cela a été le cas jusqu'à présent.
Voilà, c'était Chris Fomugno, chef de la délégation d'observateurs du NDI, le National Democratic Institute, pour la présidentielle au Gabon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Cap sur le Burkina Faso, une trentaine de tonnes de poulets avariés saisies récemment à Ouagadougou par les forces de sécurité permettent de démanteler un système illicite d'importation et de commerce d'aliments impropres à la consommation. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Coup sur coup, les forces de sécurité burkinabé vont mettre la main ces dernières semaines sur des cargaisons entières d'aliments impropres à la consommation, notamment de la volaille. Dernière en date, ces deux camions chargés d'une quantité record de près de 30 tonnes de poulets congelés venant de pays voisins. Le ministre en charge de la sécurité intérieure s'est rendu sur les lieux, Simon Compaoré.
Deux des policiers de chez nous qui étaient en faction sur la route centrale ont vu deux véhicules d'immatriculation étrangère. Ils ont sifflé là et ne se sont pas arrêtés. Et ils les ont poursuivis et ces deux véhicules là sont venus entrer ici et les chauffeurs se sont évanouis dans la nature. Ils ont remonté le filon, ils ont vu qu'il y avait même à la gare de l'Est ici des entrepôts où on avait des frigos, des congélateurs où ils venaient mettre le produit avalé certainement là-bas, conditionné dans des cartons qui ne correspondent pas à l'origine donc des produits. En la matière, c'est tolérance zéro parce qu'il s'agit de la vie des gens. En tout cas, les propriétaires seront recherchés et des acolytes seront traduits devant la justice.
Une attitude et une activité qui violent les dispositions de la loi concernant les importations de viande, comme l'atteste le ministre en charge des ressources animales, Soumano Gokoutou.
C'est la fraude d'abord, hein, puisqu'il est interdit, formellement interdit d'importer de la viande. Nous le saisissons avec en tout cas l'appui des forces de défense et de sécurité et nous procédons à l'incinération. Il faut maintenant que nous puissions faire agir les mesures pour punir ceux qui le font.
Saisie de l'affaire, la Ligue des consommateurs du Burkina a réagi face à la situation. Boukari Tabsoba est le secrétaire en charge du suivi des plaintes et réclamations section Kadiogo.
Nous envisageons, chose même que nous avons l'habitude de faire, des sensibilisations auprès des populations pour que le consommateur lui-même puisse en tout cas identifier un mauvais produit et puis que le commerçant aussi sache que vraiment tel ou tel produit n'est pas bon. Et en cas de produit de qualité douteuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Les moyens souvent nous font défaut. Donc si la Ligue a des accompagnements auprès de certaines personnes morales ou physiques, ça va en tout cas contribuer à ce que vraiment la lutte là soit menée à bien.
Cette volaille impropre à la consommation sera comme d'habitude incinérée, faute du ministre en charge des ressources animales, quand son collègue de la sécurité intérieure demande encore la vigilance à la population. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les gardes-côtes italiens qui ont coordonné hier le secours d'environ 6500 migrants au large de la Libye redoutent une nouvelle affluence record aujourd'hui dans cette zone Morgane Guériac.
Le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le HCR, faisait état d'environ 105 000 arrivées fin de semaine dernière. La quasi-totalité de ces migrants viennent d'Afrique de l'Ouest ou de la Corne de l'Afrique. Et la nouvelle route migratoire vers l'Europe passe par la Libye, un pays en plein chaos. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations.
Il est important de revenir sur ce chiffre. Donc effectivement, il y a eu plus de 6800 personnes qui ont été secourues dans les dernières 24 heures grâce à plus de 35 opérations en cours en Méditerranée. Il n'y a pas uniquement la marine italienne ni les gardes-côtes, il y a également d'autres navires militaires, mais également des bateaux d'ONG. Donc ça, c'est important de le rappeler, ils ont fait un travail impressionnant et il faut les saluer. Donc en revanche, c'est vrai que c'est un chiffre qui peut paraître impressionnant, mais qui ne doit pas pour autant alarmer. Les chiffres d'ailleurs de l'année dernière peuvent le prouver. À la même période, on était à un peu plus de 116 000 arrivés en Italie contre 111 000 cette année. Donc on voit très bien, la tendance est tout à fait stable.
Mais en même temps, d'après le HCR, au moins 3100 migrants sont morts ou disparus en mer Méditerranée cette année en tentant de gagner l'Europe.
Oui, tout à fait. On compte plus de 3150 morts depuis le 1er janvier de cette année. Il faut rappeler également qu'il y a eu des naufrages tragiques à la fin du mois de mai qui ont causé en quelques jours uniquement la mort de plus de 1000 personnes, ce qui a fait que ça a augmenté les statistiques de cette année, effectivement.
C'est donc vers la Libye que converge maintenant l'essentiel de l'immigration clandestine africaine, après le renforcement des contrôles de la route migratoire ailleurs. La Libye, où pourtant le danger que représentent les milices armées bien présents, est-elle redevenue la plaque tournante du trafic de migrants africains?
Écoutez, la Libye, de toute façon, depuis des années maintenant, 4 ou 5 ans, a toujours été le point de départ ou le point de départ principal des migrants qui arrivent en Italie aujourd'hui. Plus de 90% de ceux qui sont secourus en mer Méditerranée sont partis de la Libye. qui, à cause de la situation politique qu'on connaît ou du chaos auquel elle fait face, est devenue une véritable passoire.
Et cette crise va se poursuivre comme cela ?
Écoutez, tant que les conditions ou les raisons principales de départ des gens dans leur pays d'origine ne sont pas résolues, effectivement, il n'y a pas de raison de penser que les flux vont baisser. En revanche, il n'y a pas non plus de raison de penser que ça va augmenter. Ce sont les chiffres encore qui parlent.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM, était en ligne de Genève, en Suisse.
Présidentielle américaine 2016, le FBI, la police fédérale, a appelé les responsables des différents États à renforcer la sécurité de leurs bases de données à la lumière de récentes cyberattaques dans deux États. On fait le point avec Timothée Donangmaï.
Dans une alerte d'abord relayée par Yahoo News, puis reprise par d'autres médias, la police fédérale américaine a dit avoir ouvert une enquête à la suite de tentatives d'intrusion dans les systèmes informatiques de deux États. Le FBI a indiqué lundi qu'il ne commente pas des alertes spécifiques de sécurité, mais qu'il envoie des messages lorsque ses enquêteurs détectent des signes de cybermenace. Il n'a pas précisé les États concernés par ces dernières alertes, mais a tout de même révélé que le fonctionnement du site Internet de la commission électorale d'un des États a été compromis et que le site d'un autre État a fait l'objet de tentatives d'intrusion. On se rappelle que les sites électoraux de l'Illinois et de l'Arizona ont connu des problèmes un peu plus tôt cet été et dans les deux cas, l'enregistrement en ligne des électeurs a été affecté. Des responsables du renseignement américain que cite la chaîne NBC ont imputé ces problèmes à des tentatives d'espionnage menées par des agences russes. L'alerte de la police fédérale américaine datant du 18 août est intervenue quelques heures seulement après une conférence téléphonique du secrétaire à la sécurité intérieure, Jay Johnson, avec les autorités des différents États pour discuter de la cybersécurité. À cette occasion, Johnson avait dit qu'il était très important de veiller à la sécurisation des systèmes informatiques électoraux.
Les autorités fédérales américaines sont de plus en plus préoccupées, Timothée, par la possibilité que des pirates travaillant pour le compte de la Russie et d'autres pays accèdent aux bases de données électorales et perturbent la présidentielle de novembre.
Les États-Unis ont récemment enregistré plusieurs attaques ou tentatives contre les systèmes informatiques des États ou des compagnies privées comme le New York Times. Certains experts, tout comme la candidate démocrate Hillary Clinton, sont d'avis que la Russie est responsable de l'embarrassante fuite d'emails de la direction nationale du Parti démocrate peu avant la convention de ce parti. Ces emails avaient montré que des responsables nationaux du parti ne prenaient pas au sérieux la campagne du sénateur Bernie Sanders, adversaire d'Hillary Clinton aux primaires. Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Harry Reid, a demandé au FBI d'ouvrir une enquête sur la menace de la Russie de s'en prendre aux systèmes informatiques électoraux aux États-Unis dans l'optique d'une falsification des résultats.
Merci Timothée Donangmaï.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Souleymane Tinrawalé. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Gabidorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. On maintient la conversation. Partagez vos photos, vos vidéos, posez des questions. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.